Le piège avec la santé mentale est le suivant. Concept progressiste, il y a 50 ans, les acteurs de terrain ne peuvent que se féliciter de la prise en compte de cette problématique sanitaire et sociale. Aussi, comprendre que la santé mentale est devenue un instrument pour gouverner les hommes n'est pas chose aisée. Comprendre que la santé mentale s'insère dans une légitimation du discours de l'adaptation est importante pour comprendre les enjeux. La santé mentale est la capacité de s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. C'est un extrait de l'ouvrage « La santé mentale vers un bonheur sous contrôle » publié aux éditions La Fabrique, publié en 2014 et signé de Mathieu Pellassem. Mathieu Pellassem qui est psychiatre de secteur et cofondateur de Utopsie et membre également du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. Et nous sommes avec Mathieu Pellassem. Bonjour Mathieu Pellassem. Alors il nous faudra comprendre comment la santé mentale, ou ce que vous avez appelé aussi santé mentalisme, s'articule avec le néolibéralisme. C'est un livre qui cherche à souligner cette alliance récente donc entre santé mentale et néolibéralisme. Cela dans la continuité de travaux de Foucault, au sens où il a mis à jour le biopolitique, la biopolitique, et que d'une certaine manière, on verra comment le concept de santé mentale s'encastre dans la biopolitique, est au service de la biopolitique. Aujourd'hui, dans Santé mentale, vous nous expliquez dans cet ouvrage qu'il faut entendre une fabrique de la subjectivité, un certain type de raisonnement, tel que par exemple la maximalisation de son capital individuel. Vous nous expliquez aussi que c'est un dispositif normatif qui s'appuie notamment sur la figure de l'auto-entrepreneur, que la santé mentale serait donc devenue un enjeu finalement dans l'art du gouvernement des conduites. C'est devenu donc un processus de normalisation qui vise à transformer les rapports des individus, des groupes et de la société dans le sens d'une adaptation à la société contemporaine qui est, elle, dominée évidemment par la logique de la concurrence. Sauf que à l'origine, ce concept de la santé mentale, à l'origine, c'est un concept progressiste. Alors il va falloir qu'on essaye de comprendre comment un concept progressiste est devenu un concept aussi apparemment barbare, finalement. Et pour ça, vous faites, vous, de cette histoire, de cette notion de la santé mentale. Et j'aimerais qu'on commence par cette préhistoire. Le titre de votre premier chapitre, Préhistoire du concept de santé mentale. Et vous faites remonter ce concept de santé mentale. Vous le faites remonter au mouvement d'hygiène mentale du début du XXe siècle, sous l'impulsion d'un psychiatre qui s'appelle Édouard Toulouse. Et ce mouvement de l'hygiène mentale semble avoir pour objectif l'abandon des pratiques asilaires. De quoi ce concept de santé mentale voudrait se défaire? Et qu'est-ce que c'est que ces pratiques asilaires?
Le concept d'hygiène mentale, bon, il vient à la suite de tout un tas de choses. Mais pour faire rapide, j'ai fait cette petite histoire, je ne suis pas historien, donc c'est une histoire assez brève et incomplète. Mais il me semble qu'il y a des temps assez essentiels. Alors, un des temps essentiels, c'est les États-Unis, début des années 1900. Un patient qui s'appelle Clifford Beers, qui a été interné pendant plusieurs années à l'hôpital psychiatrique et révolté par le système asilaire qu'il rencontre, et décide, en sortant de l'hôpital, de fonder la Ligue d'hygiène mentale du Connecticut. Voilà. Bon. Alors, cette Ligue d'hygiène mentale, en fait, elle va avoir pour but d'essayer de promouvoir d'autres pratiques et puis de promouvoir le fait que les malades mentaux sont des humains et en tant que tels, ils ont des droits comme tous les êtres humains. Et ce ne sont pas des êtres humains au rabais. Bon. Alors là-dessus, si on va rapidement, en France, il y a un psychiatre assez important qui s'appelle Édouard Toulouse qui a ouvert le premier service d'hospitalisation libre, c'est-à-dire que les gens pouvaient venir se faire soigner en psychiatrie à leur demande. Ce qui était une nouveauté, ça c'est dans les années 20-30, c'est une nouveauté parce que jusque-là, tous les internements sont décidés à la place de la personne.
Même à la demande d'un tiers.
Voilà, c'est à l'époque, alors là aussi les mots sont trompeurs, parce qu'on parlait de placement volontaire, mais c'était la famille qui plaçait le patient, ou quand c'était pas le préfet, quoi. Les placements d'office. Et puis, donc ça c'est dans les années 30, et en fait, Édouard Toulouse et Clifford Beers vont se rencontrer, et dans les années 30, il va y avoir la première... rencontre d'hygiène mentale, la première rencontre mondiale qui a lieu à Washington, avec cette idée-là, comment faire pour que les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques puissent bénéficier de soins dignes d'une manière qui soit le plus accueillante possible, on peut dire. Bon, alors. Il faut dire quand même que il va y avoir la guerre, l'hygiène, le courant de l'hygiène, hein, ça va pas être juste branché sur l'hygiène mentale. L'hygiène, ça va être comment faire pour que les conditions d'habitat, les conditions de vie, etc. des gens puissent empêcher le développement de maladies ou prévenir le développement d'un certain nombre de problèmes médicaux, quoi. Bon, alors. Il y a la guerre dans les années 39-45, et au sortir de la guerre, il va y avoir plusieurs choses. En France, quelque chose de spécifique, c'est qu'il va y avoir des expériences au moment de cette catastrophe qui vont notamment à l'hôpital de Saint-Alban en Lozère, avec des gens comme Tosqueyès, Bonafé, Balvet, qui vont... réformer complètement l'institution asilaire pour en faire un lieu d'accueil et un lieu où à la fois on résiste à l'occupant, mais en même temps on met en place des pratiques de partage et d'accueil des patients. Et dans cet hôpital notamment, il ne mourra pas de patients de faim, alors qu'il y a à peu près 40 000 patients qui vont mourir de faim pendant la guerre, quoi. Alors, donc c'est quand même quelque chose d'important.
Je propose qu'on s'arrête un petit peu justement sur les pratiques qui sont mises en place, particulièrement à Saint-Alban, notamment cette mise en place de la responsabilisation des malades autour de la vie quotidienne. C'est qu'il faut se rendre compte que nous sommes effectivement en pleine guerre, donc c'est aussi un lieu de résistance. Et que donc, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait des formes d'autogestion qui se mettent en place, quoi.
Tout à fait. Alors, ces formes d'autogestion, alors ça vient sur... ça ne se crée pas de soi-même non plus. Là aussi, il y a une histoire. Il y a un psychiatre allemand qui s'appelle Hermann Simon, qui, dès les années 20, montre que occuper les patients, les responsabiliser par rapport à des tâches du quotidien, modifie leur présentation pathologique et permet de soigner aussi ce que Jean Houry notamment va appeler après la pathoplastie, c'est-à-dire que l'hôpital en lui-même sécrète de la pathologie et qu'il s'agit de soigner l'hôpital pour que l'hôpital puisse être soignant pour les patients. Et donc il y a cette dialectique de à la fois soigner l'organisation d'ensemble, soigner l'institution, pour que l'institution soit soignante pour les patients. Et donc, la geste, on peut dire, saint-albanaise et de François Tosqueyès et autres, c'est de dire, voilà, on est là tous ensemble, la principale chose, c'est notre survie, c'est-à-dire comment bouffer et comment pas mourir, et qu'il va falloir donc que chacun puisse se responsabiliser dans un ensemble collectif, même si la personne est très folle, très lointaine, a pas de contact, elle peut quand même peut-être faire un tout petit quelque chose pour la vie collective. Et à partir de là, on va voir que tout un tas de phénomènes comme l'agitation, comme le gâtisme, comme les régressions très grandes des patients vont plus ou moins céder et vont se transformer en d'autres choses, et notamment des choses beaucoup plus créatives.
Est-ce que soigner l'hôpital, c'est aussi ce geste-là de faire tomber le mur qui sépare l'asile de la cité ?
Oui, c'est faire à la fois tomber le mur réel, mais c'est aussi surtout faire tomber le mur en nous. C'est-à-dire que la folie nous concerne tous. On a tous à voir avec cette dimension-là de l'existence humaine. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de mettre en question cette hiérarchie à la fois à l'intérieur de l'hôpital, mais cette hiérarchie aussi à l'intérieur des humains, comme quoi il y aurait des normaux d'un côté, il y aurait des fous de l'autre. Et en mettant en question cette hiérarchie, c'est-à-dire il n'est pas dit qu'il faut abolir cette hiérarchie, il est dit qu'il faut la mettre en question. C'est-à-dire que le médecin et l'infirmier sont toujours le médecin et l'infirmier, mais il ne faut pas qu'ils se prennent pour le médecin et l'infirmier. Et comme ça, ils vont pouvoir rencontrer la personne en souffrance là où elle est, et pas là où le soignant voudrait qu'elle soit. Et donc, ça a été un moment absolument important, puisque au sortir de la guerre, les gens ont vu revenir les rescapés des camps et se sont aperçus que les patients psychiatriques et à l'asile ressemblaient beaucoup à ces gens-là. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique pouvait être un univers concentrationnaire aussi. Et donc, révoltés par tout ça, les psychiatres progressistes d'alors vont se dire qu'il faut absolument continuer de modifier, de transformer l'hôpital. Tout ça, il faut dire que c'est avant l'arrivée des médicaments neuroleptiques. Hein. Et l'arrivée des médicaments, c'est en 1952. Et la modification de l'ambiance des hôpitaux qui a concouru à soigner les patients, c'est avant, c'est pendant la guerre.
Et puis, il y a aussi la psychanalyse qui commence aussi à être de plus en plus présente, à remuer. Il s'avère qu'au sortir de la guerre, plein de courants commencent à émerger au croisement donc de la psychanalyse et de la psychiatrie, des courants très différents à l'intérieur même du courant progressiste. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un de ces courants, celui, disons, fondé par Jean Houry, qui préface donc cet ouvrage, qui est ce courant, disons, de la psychothérapie institutionnelle, en tout cas c'est comme ça qu'il est appelé. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le mot, là, d'institution?
Alors, le mot, ils ont choisi le mot d'institution. Alors à l'époque, c'est Coquelin et Daumaison, dans un article qui crée ce mot de psychothérapie institutionnelle. Ils choisissent le mot institution parce que il y a une polysémie dans le terme d'institution majeure. Alors la sociologie, c'est la science des institutions, hein. Mais eux, ils vont choisir le mot d'institution dans un sens bien particulier. L'institution est un espace, on peut dire, psychique, qui permet d'accueillir la singularité et notamment les processus inconscients à l'œuvre chez toute personne. Et donc, il s'agit ils font une distinction entre ce qui est de l'établissement et de l'institution. L'établissement, on peut dire, c'est l'hôpital psychiatrique comme on peut se le représenter, le service psychiatrique avec ses murs, sa hiérarchie, etc. Il s'agit de mettre en place à l'intérieur de ce cadre un autre cadre qui subvertit ce premier cadre rigide pour permettre de s'ouvrir à la relation aux patients psychotiques, aux patients les plus fragiles. C'est-à-dire qu'il faut travailler l'établissement, ses rigidités, pour qu'on puisse accueillir ce qui d'habitude est écrasé par cet établissement.
Veut dire aussi que du coup, c'est toujours penser l'institution. Au contraire, ce n'est pas dire qu'il n'y en a plus, c'est la pensée, où elle agit.
Le point central de ça, c'est analyser en permanence ce qui se passe dans l'espace de l'institution. C'est-à-dire analyser ce qui se passe une personne dans l'espace de l'institution, dans un groupe, comment tel soignant, tel patient réagit à telle chose, etc. Et que ce mouvement permanent crée une activité commune entre les gens, et cette activité commune va permettre de transformer l'établissement lui-même, c'est-à-dire de transformer les hiérarchies hospitalières, de transformer les rigidités de l'hôpital, mais de transformer aussi les rigidités du monde dans lequel on est. Et c'est-à-dire que ça, le fondement, on peut dire, de la psychothérapie institutionnelle et du désaliénisme, c'est-à-dire qui lutte contre l'aliénisme. Le désaliénisme, c'est quoi? C'est faire que la cité puisse être accueillante pour les personnes les plus en marge et les plus fragiles. Alors ça, c'est un des points extrêmement importants, puisque 60 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, le renversement est le suivant, c'est on demande aux personnes les plus en difficulté de s'adapter à la société telle qu'elle est, et on nous présente cette société comme inchangeable. Et donc, s'ils ne s'adaptent pas à la société, bah, ma foi, ils sont exclus de fait. Donc ça, c'est le changement de la santé mentale actuelle.
Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Faudrait pas croire que je sois une paumée. Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Faudrait pas croire que je sois une ratée. Moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais le seul ennui, vous voyez, c'est que je l'ai, c'est que je l'ai, c'est que je l'ai perdu, mon sac.
J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu à cette psychothérapie institutionnelle, à cette expérience de sortir de l'après-guerre, Jean-Henri et Tosquelles, pour essayer de comprendre aussi dans les pratiques mêmes, et notamment de ce que ça modifie aussi dans les pensées du soin, notamment à travers la notion de transfert, qui est une notion importante dans la psychanalyse et en psychiatrie, et comment cette notion de transfert s'en retrouve modifiée ou pensée autrement dans des lieux donc comme Saint-Alban, par exemple.
Alors, bon, déjà, il faut peut-être dire un petit mot de ce que c'est que le transfert, on peut dire. Sigmund Freud a inventé ce concept qui, à partir d'une constatation en écoutant les patients, que les patients vont projeter tout un tas de choses de leur vie, de leur histoire, sur le thérapeute, le psychanalyste, le psychiatre ou ce que vous voulez, et que c'est à partir de ces projections-là qu'on va pouvoir travailler, c'est-à-dire et essayer de penser un autre avenir possible pour la personne. Bon. Ce que remarquent les personnes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques, c'est que pour les patients, notamment les personnes schizophrènes, les personnes psychotiques, les manifestations transférentielles sont beaucoup plus complexes et compliquées que ça. C'est-à-dire que comme leur psyché est beaucoup plus éclatée, eh bien les relations transférentielles vont elles-mêmes être éclatées. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se centrer sur une personne, mais elles vont se centrer sur... Elles vont pas se centrer, en fait. Elles vont être sur un petit bout de cette personne-là, sur un petit bout d'une autre personne, sur telle chose, etc. Et donc, il s'agira, dans l'institution, de ramasser tous ces bouts éclatés que projette la personne pour essayer de qu'elle se rassemble et qu'elle puisse avancer dans le monde un petit peu différemment. Et donc, il s'agit que l'institution se modifie pour accueillir ces phénomènes transférentiels très compliqués et pour les travailler avec les patients. Un exemple très facile pour comprendre ça, par exemple, y a une expérience qu'on peut faire au quotidien quand on travaille en psychiatrie avec des patients psychotiques. Vous avez un patient, il va dire à une partie de l'équipe « Oh, bah, oui, vous travaillez bien, c'est super ce que vous faites », et puis il va dire à l'autre partie « Mais vous, c'est nul, vous êtes vraiment des salopards, etc. » La première partie de l'équipe va dire à la deuxième « Mais c'est vous parce que vous savez pas bosser, vous êtes nul, mais oui, il vous aime pas parce que vous êtes comme ci, comme ça. » Et les deux parties de l'équipe vont se cliver, vont s'engueuler. Et en fait, ce clivage sera représentatif du clivage interne du patient. Et donc, la première des choses pour soigner le clivage interne du patient, c'est de mettre en place des dispositifs institutionnels pour que les deux parties de l'équipe puissent se parler et puissent élaborer qu'est-ce que le patient est en train de jouer dans l'équipe entière. Bon. Et ça, c'est du quotidien de la psychiatrie. Voilà, moi je travaille à l'hôpital psychiatrique, c'est notre quotidien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ceci dit, pour ça, il faut créer des espaces de parole et il faut créer des espaces où les gens, quel que soit leur statut professionnel, puissent se parler. C'est-à-dire que si il y a une relation très forte entre l'aide-soignante et le patient, mais que l'aide-soignante n'a pas le droit de parler parce que la surveillante-chef lui interdit ou que le médecin il est trop rigide, etc., ben ça marche pas. Donc il faut essayer de mettre en question l'institution. Donc ça, c'est la première des jambes de la psychothérapie institutionnelle, parce qu'on dit souvent la psychothérapie institutionnelle marche sur deux jambes. Il y a la jambe psychanalytique pour essayer d'analyser ce qui se passe au niveau de la relation humaine, mais il y a aussi la jambe politique, c'est-à-dire pour analyser la société et de voir comment on peut transformer la société, parce que c'est ça la grande différence avec l'époque actuelle. On nous demande de nous adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. La pensée de la psychothérapie institutionnelle, c'est essayer de décrypter ce qui se joue au niveau social général pour essayer aussi de subvertir ce niveau-là. Et que le travail avec les patients nécessite toujours cette articulation entre travailler la relation et travailler les conditions de possibilité de cette relation dans la société en général. Je peux prendre un exemple très, très concret de ça, comment dans la pratique quotidienne, là, ça peut se jouer. Le secteur dans lequel je travaille, comme énormément de secteurs, ils articulent des dispositifs dans la cité et puis une unité d'hospitalisation. Bon, et que les patients, les soignants vont circuler dans ces différents espaces. Bon, pour qu'ils circulent dans ces différents espaces, il faut qu'il y ait aussi une certaine conception de qu'est-ce qu'il faut aux soins, c'est-à-dire il faut une continuité relationnelle, il faut une continuité dans le temps et dans l'espace, enfin bon, voilà. On a créé tout un tas de choses. Par exemple, on a créé une radio avec des patients qui
s'appelle
la radio sans nom. Voilà, qui est, on peut l'écouter sur SoundCloud. C'est tous les mardis et puis c'est en podcast, etc. Ce dispositif de radio, c'est pour faire quoi ? C'est à la fois pour que les gens puissent se parler, mais aussi pour que les personnes qui gravitent dans le milieu des soins puissent intervenir dans la société. C'est-à-dire que ça soit eux qui aillent agir, qui aillent demander, aillent interviewer Tartampion, aillent interviewer le maire, aillent interviewer je ne sais pas qui, et qui puissent reprendre ce qui se passe au niveau de la société pour eux, quoi. Alors que d'habitude, ils sont exclus du champ de la parole, du champ de l'action, etc. Mais là, ils se fondent un champ d'action, et à partir de là, ça va créer tout un tas de rencontres. Alors à partir de là, on va rencontrer des associations, on va rencontrer d'autres radios, on va rencontrer des étudiants dans des facs, et toutes ces rencontres, ça va modifier à la fois le lien qu'on a entre nous, mais ça va modifier le lien que les gens ont avec la société en général. Voilà. Et ça, c'est pas la néo-société, c'est justement travailler à l'intérieur de la société.
Mathieu Bellassem, qu'est-ce qui se passe en Italie sur la période comme ça qui va de l'après-guerre jusque peut-être au milieu des années 70? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce que c'est que cette psychiatrie démocratique qui a lieu en Italie?
Alors, la psychiatrie démocratique, donc ça va être un courant qui va être la figure de proue, on peut dire, c'est Basaglia, qui est un psychiatre, qui justement, lui, c'est un militant politique aussi, hein, et il va dire, voilà, il faut porter les contradictions qu'il y a à l'intérieur de la psychiatrie, il faut les porter sur le champ social en général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, les patients psychiatriques, ce qu'on peut voir d'abord et avant tout, c'est la misère humaine qu'il y a dans les asiles. Et donc, il faut être radical avec le système asilaire, il faut le détruire. Bon. Ce qui n'était pas du tout la position des gens de la psychothérapie institutionnelle, qui était justement partir de l'asile pour le transformer et pour le subvertir et pour en faire quelque chose d'autre. Voilà. Mais Basaglia, il y a une loi, notamment la loi 180, qui va fermer quasiment du jour au lendemain les hôpitaux psychiatriques. Bon. Et donc lui, il va notamment il va créer dans la cité les centres de santé mentale. Ça va être le mot. Hein. Alors il faut dire quand même que le mot de santé mentale va arriver dans les années 50-60 avec cette idée quand même de lutter contre la ségrégation qui a cours dans les systèmes asilaires. Bon. Alors moi je fais la distinction quand même entre ce qui est de l'asile et ce qui est le système asilaire. C'est-à-dire qu'il y ait des lieux d'asile, c'est-à-dire des lieux de refuge pour les personnes qui en aient besoin, c'est important le droit d'asile. C'est d'autant plus à l'heure actuelle où on entend des discours, des saloperies. Par contre, ce qui est problématique dans l'asile, c'est quand il y a dans son sein un système asilaire, un système disciplinaire, un système de ségrégation, un système d'exclusion. Voilà. Il faut bien faire cette distinction-là. Et je pense que Basaglia, lui, partait de ce postulat-là, de dire on ne peut pas réformer l'asile parce qu'il y a trop de systèmes asilaires à l'intérieur. Bon, ce qui n'était pas exactement ce qu'avait fait une partie des Français avant 68, quoi, des sorties de la guerre, quoi.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, et qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir entre eux les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ cette technique thérapeutique de la morgue. Et la médecine moderne complice en cela la plus sinistre et crapuleuse magie.
J'aimerais que là, on s'arrête sur le rôle de la classification internationale des maladies. Qu'est-ce que c'est que cette classification internationale et comment elle va se mettre à augmenter le nombre de troubles?
Il y a tout un mouvement actuel qui s'appelle Stop DSM. Donc le DSM, c'est le manuel diagnostique statistique qui a été mis en place dès les années 50. Pour essayer de classifier les pathologies psychiatriques, les troubles mentaux. Bon. L'OMS a mis en place une autre classification de toutes les maladies qui s'appelle la Classification internationale des maladies, la CIM. Faut pas se tromper d'enjeu, à savoir que le DSM, au départ, c'était un objet de classification, de recherche, etc., qui est devenu un enjeu sociétal progressivement. Au départ, notamment, ça a été une classification qui a été fondée par des psychanalystes américains, faut le dire, qui a servi notamment les assurances, parce que quand vous avez tel diagnostic, eh ben, vous êtes remboursé de votre prise en charge, etc., ou pas. Bon. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu... probablement par une grande paresse intellectuelle et puis par des enjeux de pouvoir assez compliqués à expliquer en deux secondes, c'est devenu un enjeu de structuration du savoir. C'est-à-dire que le DSM, c'était de dire, bah voilà, on va pouvoir enfin tous les psys du monde entier parler tous de la même chose puisqu'on aura les mêmes mots et on aura la même classification. Donc, par exemple... tout le monde saura ce que c'est qu'une dépression, puisque est considérée comme déprimée toute personne qui a tel critère, tel critère, tel critère, tel critère. Bon. Alors ça, il y a DSM-1, DSM-2, DSM-3, puis DSM-4, et là maintenant DSM-5. Et alors, au fur et à mesure, il va y avoir une inflation des catégories diagnostiques, alors sous la pression d'un certain nombre de lobbies pharmaceutiques, de lobbies de psy, de tout un tas de choses. Alors, ça en vient à ce point caricatural que, par exemple, dans le dernier DSM-5 est considéré comme un deuil pathologique, une tristesse qui se prolonge, je crois, quelques semaines après la mort d'un proche. Donc, si vous êtes triste parce que vous avez perdu votre père et votre mère plus de, mettons, 2 semaines ou 2 mois, je ne sais plus, eh bien, vous êtes considéré comme deuil pathologique, donc déprimé, donc traitement médicamenteux qui va avec. Bon. Et en fait, le DSM marche avec une modification des seuils d'inclusion des pathologies. Par exemple, il dit que 20 à 25% de la population aura un jour un trouble de santé mentale. Mais si, par exemple, on déclare que est considéré comme un trouble de santé mentale le fait d'avoir une insomnie une fois et de consulter son généraliste pour ça, 99% de la population aura un jour un trouble de santé mentale. Voyez ? Et du coup, d'abaisser les seuils, ça permet d'augmenter le nombre de personnes qui auraient besoin de soins et d'accompagnement, mais ça permet du coup de légitimer ce que c'est que les problèmes de santé mentale et du coup de légitimer l'intervention des acteurs. Alors du coup, le DSM a notamment psychologisé et médicalisé énormément de problématiques qui étaient des problématiques jusque-là traitées de manière sociale, traité d'une autre façon, vous voyez.
Il y a aussi un point important, c'est ce morcellement aussi des troubles. Il y a un passage dans votre livre qui dit beaucoup, c'est la démarche clinique fondée sur l'expérience qui aura le plus à pâtir des classifications. Une même personne pourrait être diagnostiquée déprimée, donc antidépresseur, angoissée, donc anxiolytique, insomniaque, donc hypnotique, et sans que soit pensé ce qui lui arrive en particulier dans sa vie.
Tout à fait. Je crois que la psychiatrie, à l'heure actuelle, finit de travailler là où elle devrait commencer à travailler. C'est-à-dire, dans la psychiatrie absolument débile, telle que promue à la fois par les politiques, par les universitaires et par tout un tas de gens, c'est de dire, au fond, la zone d'intervention de la psychiatrie, c'est de mettre en place un traitement médicamenteux. Mais une fois que vous avez mis en place un traitement médicamenteux, parce qu'en effet, pour tout un tas de gens, il faut qu'ils puissent de nouveau penser et réfléchir à ce qui leur arrive, et que des fois, les médicaments permettent d'entrer de nouveau en relation. Bon. Mais une fois que vous avez fait ça, bah, faut entrer en relation, et faut essayer de penser, bon, bah, le gars, il a une dépression, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie, là, pour qu'il soit déprimé ? Et comment on va essayer de penser ensemble ce qui lui est arrivé pour qu'il puisse penser sa vie, son histoire, le monde, comment il va faire, vous voyez ? Et ça, je crois qu'il ne faut pas céder là-dessus. Quand on parlait tout à l'heure des dispositifs à mettre en place pour accueillir la relation thérapeutique, on peut dire, pour accueillir le transfert, etc. Mais tout ça, pourquoi ? C'est pour que les gens puissent se placer autrement dans leur propre histoire, dans l'histoire de leur vie, dans l'histoire de leur milieu, dans l'histoire du monde. Voyez ? Et je crois que c'est d'une paresse absolue. Moi, je vois énormément de patients. Alors, ils arrivent, ils ont leur étiquette. Bah voilà, bonjour, je suis bipolaire, d'accord, ok, vous appelez comment ? Oui, mais je suis bipolaire, donc j'ai mon traitement à vie parce que c'est une maladie chronique, hein, et que j'ai été éduqué thérapeutiquement, donc c'est comme ci, comme ça que ça va se faire. Bon, d'accord, bah, très bien. Et dites-moi, mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à être comme ça, là ? Mais attendez, c'est un désordre biologique, là. Enfin, c'est dans mes gènes, c'est dans... Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, là, peut-être aussi c'est quelque chose... Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est héréditaire, parce que mon père lui-même était déprimé, et puis d'ailleurs il s'est suicidé. Ah bon ? Mais vous aviez quel âge quand il s'est suicidé ? J'avais 10 ans, et puis c'est vrai, ma mère après, elle est pas bien, et tout ça. Ah bon, d'accord. Et oui, mais c'est vrai que le père de mon père, quand même... Et donc, au fur et à mesure que vous parlez avec les gens, vous pouvez essayer de construire un sens à ce qui leur arrive. Mais le médicament ne construit pas de sens à l'existence. Le sens à construire, on le construit dans la relation. Or, une psychiatrie qui se passe de la relation, c'est... comment dire quelque chose de pas méchant. Je dirais c'est de la médecine vétérinaire. C'est très méchant pour les vétérinaires, parce que j'aime bien les vétérinaires, parce que les animaux, ça met en prise avec un certain nombre de choses. Mais vous voyez, c'est se passer de la relation, c'est d'une absolue connerie, quoi.
Vous parlez, par exemple, de traitement industriel de la souffrance psychique. Je crois que le traitement industriel, c'est se passer de la relation.
Alors oui, et puis surtout, ça légitime un certain nombre de problématiques politiques. Par exemple, dans le DSM, vous avez... tout un tas de catégories autour des risques psychosociaux, autour du burn-out, etc. Mais il n'y a pas de trouble du management. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on va individualiser des problématiques politiques, c'est-à-dire le management qui tue les gens, qui font qu'ils suicident sur leur lieu de travail, ça va pas être dans le DSM. Et du coup, on va dire, c'est à l'individu de mettre en place des dispositifs pour supporter le management terrible qu'il y a dans un certain nombre d'entreprises.
Oui, c'est ça, cette déconnexion entre le symptôme et le contexte politique dans lequel il existe.
Exactement. Donc, un gars qui est en souffrance au travail, la première des choses, c'est de l'envoyer au syndicat quand le syndicat n'est pas complètement déjà déprimé, etc. C'est faire un boulot politique. C'est pas de lui prescrire un antidépresseur. Je veux dire, pourquoi pas lui prescrire un antidépresseur, mais alors après ? C'est-à-dire qu'il faut d'abord voir la folie du monde et pas se contenter de voir la folie ou la souffrance de la personne.
Et justement, il nous faut y venir parce que cette médicalisation comme ça de la société, évidemment, elle crée énormément de pathologies et donc elle crée énormément d'anormaux d'une certaine manière. Et il va y avoir... d'un seul coup, au tournant de la fin des années 90 et début des années 2000, vous expliquez qu'il y a finalement ce tournant où d'un seul coup la santé mentale devient une priorité de santé publique.
Oui.
C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de cette inflation volontaire et en même temps de fait, vu qu'il y a une tentative de normalisation, il y a forcément du coup toutes ces pathologies qui apparaissent.
Oui.
Et donc ça devient comme ça une priorité de santé publique. Quoi, au tournant des années 2000.
Oui, tout à fait. L'Organisation mondiale de la santé fait de la santé mentale une priorité et fait de 2000 ou 2001 l'année mondiale de la santé mentale. Donc avec l'idée, alors là aussi, le terme de santé mentale, il est encore lié, on peut dire, à comment faire pour que lutter contre la ségrégation qu'il y a dans un certain nombre de pratiques psychiatriques de par le monde, etc. Bon. Mais dans les pays développés, il va y avoir progressivement, les gouvernants vont s'en saisir. Par exemple, en 2005, il y a l'Union européenne qui édite un livret vert qui s'appelle « Améliorer la santé mentale de la population », un objectif stratégique pour l'Union européenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la santé mentale de ce terreau, on peut dire, psychiatrique progressiste, s'est déterritorialisée progressivement au cours des 50 ans qui sont passés de son origine psychiatrique pour se reterritorialiser sur un champ économique. Pourquoi c'est important pour l'Union européenne d'avoir une population en bonne santé mentale ? Parce que c'est 2005, c'est le moment de la stratégie de Lisbonne. C'est le moment où on a voté non, mais finalement c'est quand même oui. Bon. Dans ce moment-là, il faut montrer que l'Union européenne est un bon espace d'investissement pour les investisseurs, les capitaux, etc. Et donc, il va falloir rénover les indicateurs de développement économique, par exemple le produit intérieur brut, et dans ces indicateurs, mettre un certain nombre de choses qui ont trait à la qualité de vie, au bien-être, etc. Tant et si bien que vous allez avoir en 2008 en France, Sarkozy va mettre en place la commission Zenz-Stiglitz-Fitoussi sur la mesure de performance du progrès social, enfin je ne sais plus l'intitulé exact, qui va dire voilà, il faut rénover l'indicateur PIB, prendre en compte la qualité de vie, etc. Et donc ils vont demander un rapport à la secrétaire d'État à l'économie numérique qui va s'appeler la santé mentale, l'affaire de tous, en disant il y a trois santé mentale, la mauvaise santé mentale, donc ça c'est la psychiatrie, c'est Burke, on n'en parle pas. Il y a la santé mentale, on peut dire borderline, c'est-à-dire tout ce qui est les risques psychosociaux, c'est-à-dire les gens qui se balancent du haut des immeubles d'Orange, et pas de France Télécom, j'insiste, la dépression, etc., toutes ces choses-là. Et une troisième santé mentale, la santé mentale positive. Et alors, là aussi, je crois qu'il faut absolument insister sur la force du retournement des mots et sur le fait qu'il est très difficile de lutter contre des mots positifs. Qui peut être contre la qualité de vie ? Qui peut être contre le bien-être ? Qui peut être contre toutes ces entités positives, l'empowerment, restaurer la capacité d'agir ? Qui peut être contre la déstigmatisation ? Vous voyez ? Sauf que ces mots, sous couvert d'être des mots gentils, vont se retourner contre les pratiques émancipatrices pour à la fois les formater, mais surtout pour augmenter et la ségrégation et la norme de concurrence actuelle. Si on revient juste en arrière sur cette dimension du passage de l'hygiène mentale à la santé mentale, en 1948, l'Organisation mondiale de la santé définit ce que c'est la santé. Jusque-là, il y a des définitions faites par des philosophes, par des médecins. Par exemple, la santé se définit dans le silence des organes, c'est-à-dire qu'on peut la définir que négativement, la santé. C'est au moment où on la perd qu'on voit ce que c'est. Canguilhem qui dit que la santé, c'est le luxe de tomber malade et s'en relever, et qu'au fond, la maladie est une expérience à traverser. Bon. En 1948, l'OMS va dire que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne réside pas seulement en l'absence de maladie d'infirmité. Le mot très important dans cette définition, c'est l'état de complet bien-être. C'est-à-dire que dans une définition, il y ait une norme positive, c'est un problème. Pourquoi ? Qui est dans un état de complet bien-être ? À l'heure actuelle, est-ce que vous, est-ce que moi, on est dans un état de complet bien-être ?
Voilà quelques extraits de l'évolution de la santé mentale, comme vous l'avez rappelé. Effectivement, l'OMS 1948, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Elle ne réside pas seulement dans l'absence de maladie ou l'invalidité. Une nouvelle norme est donc créée, hein, qui est l'état complet de bien-être. Ensuite, plus tard, encore une fois, nouvelle définition de l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Et puis encore plus loin, une autre définition, une personne en bonne santé mentale est donc quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer. Ça, c'est encore un autre rapport de l'OMS. On voit que la santé mentale est condition indispensable aussi. Par ailleurs, l'Europe dit condition indispensable pour une Europe viable, socialement responsable et productive.
Tout à fait. La santé mentale, alors c'est une complexification, on peut dire, de ce qu'est la biopolitique. Hein. Ce gouvernement sur les corps, c'est aussi un gouvernement sur les âmes. Et la santé mentale, ça permet de rentrer dans les âmes. Et par exemple, il faut que vous maximalisiez votre capital santé mentale, comme il faut que vous mangiez 5 fruits et légumes par jour pour pas mourir le lendemain d'un cancer. Mais... dans toutes ces définitions, il faudrait reprendre, faire une analyse quasiment linguistique, c'est-à-dire tous les mots positifs, améliorer, bien-être, sentiment de maîtrise de sa vie, etc. Quand vous lisez ces définitions, vous n'arrivez pas à percevoir d'emblée quel est le problème. C'est ça le grand problème, on peut dire, pour penser, parce qu'il va falloir en passer par toute une déconstruction de ces mots positifs, par exemple. Un exemple très concret qui nous a concerné en 2011 quand il y a eu la réforme des hospitalisations sous contrainte. L'intitulé dans le projet de loi, il y avait voilà, cette loi est là pour favoriser l'accès aux soins et la continuité des soins. Sauf que ce mot soins, qui est un mot noble, et puis accès aux soins, continuité des soins, c'était les deux mots importants qui ont fondé le secteur psychiatrique. Bon. Eh ben, sauf que le mot soins n'était plus ce qu'on entendait auparavant par le mot soin. Le mot soin, en fait, voulait dire la contrainte, c'est favoriser l'accès à la contrainte et la continuité de la contrainte. Donc si vous ne faites pas une analyse déconstructrice de toutes ces choses-là, de toutes ces normes, vous n'y arrivez pas à penser. Enfin, moi, c'est pour ça aussi d'où part ce travail et ce livre, parce que je n'arrivais pas à penser la différence entre ce qui était écrit, avec des mots comme ça, très, très gentils, etc., et comment dans les pratiques ça renforçait la ségrégation. Alors un exemple de ça, caricatural, pour la semaine de santé mentale de 2011, c'était en parler sans stigmatiser le sujet. Alors en parler sans stigmatiser, sur TF1 le soir de lancement, paf, un sujet sur les unités pour malades difficiles et sur les fous criminels dangereux. Bon, je relis ces deux choses là parce que la déstigmatisation ne concerne que les patients qui se plient aux normes auxquelles on veut les faire plier, c'est-à-dire les bons patients qui prennent bien leur traitement, qui sont, on peut dire, des acteurs de leur maladie et donc des acteurs de leur vie, qui sont vraiment des usagers au sein du dispositif, là, pas de problème, on va les déstigmatiser. Quid de ceux les plus en difficulté qui ne sont pas acteurs de leur propre vie parce que survivre à la seconde suivante, c'est déjà quelque chose d'important, eh bien, pour cela, il va rester plusieurs choses, soit les dispositifs disciplinaires comme les UMD, etc., soit de manière plus fréquente, alors il y a la solidarité familiale aussi, là où la psychiatrie se désengage, etc., et le dernier, c'est l'abandon, pur et simple, la rue, la prison, et surtout un nombre de morts, de suicidés, de disparus et de gens qui s'invisibilisent, énorme. Et voilà, la déstigmatisation, ça promeut un renforcement de la ségrégation, et c'est là où je trouvais important de mettre la phrase d'Artaud, parce que il dit combien de crimes on ne pourra expliquer que par notre impuissance à posséder la vie. Mais aussi, c'est aussi notre impuissance à posséder les mots et à faire que les mots aient un sens. Or, on voit à l'heure actuelle, partout, tout le temps, dans le champ social, à la télé, etc., chez les politiques, les mots ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire que, voilà, il suffit de voir la réforme là, de la loi sur le travail. Bah, tout ça, c'est pour moderniser. C'est des grands mots très positifs qui sont en fait, qui doivent se retourner contre les pratiques elles-mêmes, mais avec ce soupçon de positif. Et alors, je crois qu'il faut absolument analyser ça, quoi, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et c'est pour ça, là aussi, il y a un enjeu stratégique. Bien entendu qu'il faut employer ces mots pour les jouer contre eux. Par exemple, si vous voulez avoir des crédits pour, je sais pas quoi, monter des activités thérapeutiques, avoir des budgets, etc., bien entendu qu'il va falloir employer cette novlangue. Vous allez l'employer, mais la différence entre y croire et pouvoir en jouer, parce que je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir mettre du jeu dans ce qui nous est présenté comme étant exactement adéquate entre le mot et la chose. Il y a toujours du jeu possible. Et qui dit jeu dit désajustement. Et qui dit désajustement dit possibilité de subversion possible. Qui dit possibilité de subversion dit un autre monde est possible, on peut dire.
Alors un autre monde est possible aussi tant qu'on reste encore dans cette marge de prise en charge tout de même par la psychiatrie progressiste et la psychanalyse. Parce que on peut voir aussi, rapport parlementaire du 19 décembre 2013, la santé mentale étant une composante centrale du capital humain, social et économique des nations, nous nous engageons à reconnaître le besoin d'adopter des politiques de santé mentale fondées sur des preuves scientifiques. Et donc on voit apparaître d'un seul coup eh bien, le retour de la médecine et des neurosciences.
Cette politique, c'est au fond la logique de l'expertise, c'est-à-dire que c'est les savoirs experts qui devraient déterminer comment on forme la société. Mais je crois qu'il y a un livre qui s'appelle « La démocratie contre les experts ». Je crois que c'est tout à fait juste. Il faut absolument se défaire de cette logique d'expertise, c'est-à-dire que la psychiatrie, ça concerne pas les experts, psychiatres ou je sais pas quoi, ça concerne les citoyens. Et c'est à nous tous, en tant que citoyens, de savoir ce qu'on veut. Et ce n'est pas les preuves scientifiques qui vont nous dire quel modèle de société on doit avoir. Ça s'appelle du totalitarisme, quoi.
Mais c'est une représentation aussi de la santé mentale comme étant un problème neurologique, comme étant un problème qui concerne le cerveau. Et on retrouve finalement aussi quelque chose que Foucault dénonçait dans un ouvrage qui s'appelle le pouvoir psychiatrique, c'est-à-dire cette tentative de trouver des correspondances entre ces troubles psychiques et des liaisons organiques.
Oui, finalement. Tout à fait. Mais d'ailleurs, une chose très drôle à observer, vous savez que la semaine du cerveau, c'est en même temps que la semaine de la santé mentale. Et il est à parier que dans les années à venir, ça sera la même semaine. Ça sera la semaine du cerveau et de la santé mentale, puisque le postulat hégémonique, quasiment impérialiste actuellement, c'est de penser que les troubles de santé mentale, comme ce sont des troubles comme les autres du fait de la déstigmatisation, ce sont des troubles cérébraux. Et là, il y a une réduction terrible. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, au fond, où les pratiques psychiatriques en ce moment s'arrêtent là où elles devraient commencer, c'est-à-dire là où la réflexion devrait commencer, bah, ça va être aggravé si on se dit que voilà, c'est un trouble cérébral. Du coup, il n'y a rien à penser de ce qui nous arrive. Il y a juste des procédures de remédiation cérébrale, cognitive, etc. à remettre en place. Mais qu'est-ce qui fait que la personne se pose des questions dans le monde, etc., et que le monde lui pose des questions, et que c'est ça qui peut amener à des souffrances terribles, etc. Évacué, c'est un trouble cérébral. Et le problème, c'est que les dispositifs tels qu'ils s'organisent, tels qu'ils se montent actuellement, font de plus en plus de place à ce savoir réductionniste-là. La dernière preuve étant que là, il y a eu la réforme qui s'appelle de modernisation du système de santé, la réforme Touraine, la loi Touraine qui a été votée en janvier 2016, va être mis en place des groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire que au fond, les hôpitaux vont devoir coopérer les uns avec les autres, mais il va y avoir un hôpital support qui sera notamment l'hôpital universitaire, qui aura en charge tout ce qui est de l'ordre de la formation, de la recherche, etc. Ça veut dire quoi? Quand vous avez l'hôpital universitaire qui a une conception de la maladie mentale comme étant un trouble cérébral et qui fait que de la recherche en neurosciences, ça voudra dire que tous les soins psychiatriques en France seront fondés sur le postulat de troubles neurologiques. Voyez? Alors on va dire, mais c'est pas grave parce qu'il y a la plasticité cérébrale qui fait que la personne peut s'en sortir. Vous voyez, donc il va falloir mettre en place des dispositifs pour faire évoluer cette plasticité cérébrale. Mais le problème, c'est que la personne se perd dans son cerveau. Et il ne faut pas oublier la personne. C'est-à-dire que on pense peut-être des fois avec autre chose qu'avec son cerveau.
D'ailleurs, je pense qu'on va arriver bientôt à une rencontre entre le terme de résilience et de plasticité cérébrale.
Ça, c'est déjà opérant, puisque il y a tout un tas d'études qui essayent de montrer justement que on peut se sortir de tout un tas de troubles grâce à la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que la plasticité cérébrale est devenue le concept émancipateur au sein du champ neuroscientifique. Hein, et tout comme il y a maintenant des associations de patients par diagnostic, par exemple, il y a des associations de bipolaires, de déprimés, de schizophrènes, d'autistes, etc., et qui vont se regrouper à partir de leur diagnostic DSM, de leur diagnostic médical, et vont plaider ce qu'ils appellent la neurodiversité. Et ils vont plaider, alors la neurodiversité c'est quoi? C'est par exemple, bah voilà, moi je suis autiste, je suis un neurodivers, et il faut que les neurotypiques, c'est-à-dire les normopathes, quoi, nous, supportent qu'il y ait des neurodivers. Et la neurodiversité, c'est exactement le calque de la communautarisation qui a dans tout le champ social, c'est-à-dire que d'ailleurs ils se fondent sur les luttes communautarisées anglo-saxonnes, les luttes des homosexuels, les luttes des noirs, etc. Et ils en tirent une forme d'émancipation par l'assignation à une communauté de diagnostic médical. C'est quand même pas rien, quoi. Et ça, c'est on peut dire. Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que ça fait fi, on peut dire, d'une certaine spécificité peut-être française. C'est-à-dire la question de l'universalité, par exemple, le fait que dans un hôpital psychiatrique, dans un secteur psychiatrique, quelle que soit votre pathologie, vous êtes accueilli. Et que bah voilà, ça c'est aussi à l'aune de ce qu'on rencontre dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on ne sait pas ce qu'ils ont, etc. Et qu'on va soigner les gens, quels qu'ils soient. Le fait de créer des unités pour telle pathologie, pour tel truc, ça veut dire qu'on va créer autant d'exclusions. Si vous n'êtes pas de cette pathologie, vous ne pouvez pas aller dans cette unité. Si vous n'êtes pas de cette pathologie, vous ne pouvez pas aller dans cette unité. Et du coup, vous allez vous trouver avec un nombre d'incasables énorme. Alors que si on avait dit, bah écoutez, on vous accueille quoi que vous ayez, puisque au fond, toute problématique existentielle est avant tout une problématique humaine, et donc n'importe quel humain peut penser les problématiques humaines. Vous faites moins d'incasables et d'éjectables, voyez.
Et notamment, on se souvient de l'INSERM qui avait conseillé d'identifier, faire ce travail de prévention, de pré-diagnostic pour identifier les troubles de l'attention dans le DSM, dans la petite enfance, et de prescrire, une fois le trouble identifié, de la Ritaline.
Oui, alors, si vous voulez, tout ça, c'est des dispositifs où, progressivement, la question de la prévention va se muter en question de prédiction. Il faut prédire les troubles à venir des gosses des 3 ans. Il faut prédire comment va évoluer tel adolescent. Alors, par exemple, il y a des syndromes de pré-pathologie. Par exemple, il y a des adolescents qui se renferment un peu, etc. On va dire qu'ils sont à risque pré-psychotique. Et du coup, vous allez leur prescrire des neuroleptiques sans qu'ils aient eu de manifestations pathologiques. Donc, ce basculement, sous couvert de faire de la prévention, parce que c'est toujours au nom de la prévention, n'est jamais dit on va faire de la prédiction. Mais sous couvert de la prévention, on fait de la prédiction. Et là, de toute façon, ça se retourne aussi toujours contre les patients, puisque on va pas prendre de risques. Et en ne prenant pas de risques, eh ben on fout tout le monde sous médoc.
J'aimerais qu'on revienne et qu'on termine un peu sur cette santé mentale positive, parce que j'ai le sentiment aussi qu'elle va au-delà. Elle va même très loin, c'est-à-dire que cette vision de la santé mentale positive, c'est aussi une idée de ce que c'est que la réussite, de ce que c'est que le bonheur, jusqu'au quotidien même.
Tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, il y a eu un rapport où il y avait une phrase comme ça, un rapport d'État qui s'appelait, enfin il y avait un des titres du chapitre, c'était orienter sans prescrire. Et quand il est dit ce que la bonne santé mentale est la condition d'une vie réussie, ça oriente sur ce que serait une vie réussie. Mais je refuse qu'on dise à ma place ce que c'est qu'une vie réussie. Qui sont, quelle est cette rationalité ou qui sont ces gens pour décréter ce que c'est qu'une vie réussie ? Parce qu'à partir du moment où on décrète ce que c'est qu'une vie réussie, on décrète ce que c'est qu'une vie ratée. Et à partir du moment où on décrète ce que c'est qu'une vie ratée, là, ça commence à craindre grave. Surtout quand on légalise au fur et à mesure l'euthanasie. Bon, c'est une parenthèse. J'en profite pour dire quand même qu'en Belgique, une femme a été euthanasiée pour des troubles psychiques suite à une rupture sentimentale. Elle a demandé l'euthanasie parce qu'elle se considérait comme étant en grande souffrance. Quand on commence à tuer les malades mentaux, ça craint. Bon. Et quand on commence à définir ce que c'est qu'une vie réussie ou ce que c'est que le bonheur. D'ailleurs, au moment de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, etc., la question c'était comment essayer d'aller dans la recherche du bonheur. Jamais n'était prescrit ce que c'est que le bonheur, la recherche du bonheur. Et le problème de dire ce que c'est qu'une vie réussie, c'est aussi nier le tragique de l'existence. Bah oui, une vie humaine, c'est tragique. C'est tragique, on va mourir, on a tout un tas de choses qui nous arrivent dans la vie. Il y a aussi des moments d'ouverture, etc. Mais n'empêche qu'au final, c'est assez tragique. Mais le tragique de l'existence fait partie de l'existence. Alors qu'on me dise ce que c'est qu'une vie réussie, eh bien j'ai envie de dire, je vous emmerde. Vous n'avez pas à décider pour moi si ma vie est réussie ou pas.
Alors Mathieu Bellassem, du coup, dans ce contexte-là, comment vous trouvez vos pratiques au quotidien dans l'unité où vous travaillez, dans le secteur où vous travaillez ? Voilà, comment vous trouvez des pratiques qui ouvrent, qui permettent d'échapper au piège de la santé mentale ?
Bon, si vous voulez, à chaque point d'oppression, il y a des points de résistance et de possibilité. Ça, il faut vous garder ça en tête parce que sinon, c'est l'ouverture à la résignation la plus absolue, dire c'est foutu, etc. Donc, la question, c'est comment au niveau micropolitique, c'est-à-dire là où on est, là où on se tient dans le travail avec, ses proches, etc., comment on peut essayer de subvertir le milieu. C'est-à-dire que la grande différence, on peut dire, entre la raison néolibérale qui est de mettre en place un cadre dans lequel les individus se sentiront libres d'agir, mais auront un certain nombre d'alternatives finies, ils ne pourront pas faire n'importe quoi. Nous, il s'agit de mettre en place un cadre qui supporte sa propre subversion, qui supporte le fait d'aller vers la construction d'un autre cadre. Et on met en place ce que François Toscaillès appelait la déconiatrie. La déconiatrie, c'est extrêmement important parce que l'un des travaux très importants en psychiatrie, c'est rire avec les patients et pas rire contre eux. C'est-à-dire que c'est ça toute la distinction. Et donc mettre en place des espaces où s'élaborent, où se parlent les pratiques au quotidien et des espaces aussi de transformation de la hiérarchie. Parce que par exemple, quand je suis le journal avec les patients, bah, je suis journaliste et je suis un peu moins le psychiatre de l'unité. Et du coup, les personnes vont pouvoir m'interpeller comme un journaliste, on va me dire « ce que tu racontes, c'est n'importe quoi, tu déconnes, arrête tes conneries, etc. » Dans cet espace de désajustement, du coup, il va y avoir une liberté qui permettra une liberté relationnelle plus grande dans les soins plus classiques, on peut dire, bon, etc., etc. Et le fait de fonder ensemble ça permet, par exemple, ça a permis, dans l'unité d'hospitalisation dans laquelle on est, de mettre en question la blouse. Et du coup, par exemple, on a eu toute une discussion l'autre jour au précédent comité de rédaction sur qu'est-ce que ça fait la blouse. Qu'est-ce que ça fait aussi le pyjama ? Parce que le pendant de la blouse chez les soignants, c'est le pyjama chez les patients. Bon. Etc., etc. Ces petits espaces de liberté-là, c'est des espaces progressivement gagnés sur toutes les normes débiles qui nous traversent. Bon. Pour autant, il faut penser, et je pense que c'est notre travail dans les 50 années à venir, repenser l'articulation entre le micropolitique et le macropolitique. Nous ne savons plus comment lutter macropolitiquement, comment faire changer le monde et comment se donner de nouvelles institutions. Comment on fait pour fonder de nouveaux rapports de force à partir de ce qu'on observe dans les pratiques, de ce qu'on essaye de mettre en place comme processus émancipateur, on peut dire, pour émanciper la société en général.
Peut-être qu'il nous faut aussi une pratique destituante, par ailleurs.
Alors, le pouvoir destituant, là, comme on peut le publier, je crois que c'était Azan et Coupa, là, et puis à partir des travaux d'Agamben, il me semble avoir un problème là-dedans. C'est-à-dire que destituer, ça ne suffit absolument pas. Il faut instituer. Moi, je suis du côté du pouvoir instituant.
Et si on institue à l'endroit du micro et qu'on destitue à l'endroit du macro?
Oui, mais une fois que vous avez destitué... Castoriadis, il disait, il faut que la société, la révolution, au fond, c'est que la société se donne à elle-même de nouvelles institutions. C'est ça la révolution. Et donc, on peut dire que destituer les anciennes institutions, d'accord, mais il faut le dialectiser avec le fait qu'il faut instituer de nouvelles. Et si vous contentez de destituer, juste vous détruisez, et ça peut être la voie à un nihilisme terrible. Comment on pense la création de nouvelles institutions? C'est ça qui est devant nous, quoi.
Merci beaucoup, Mathieu Bellassem. Je rappelle, c'est votre ouvrage, La santé mentale, Faire un bonheur sous contrôle, aux éditions La Fabrique, et puis surtout aussi cette association, hein, Utopsie. Il y a un site internet, c'est utopsie.fr. Voilà. Et puis le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. Je ne sais pas si ce collectif existe toujours.
Oui,
il est toujours actif.
Oui, tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Bellassem. Merci.